أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا جب دنیا میں انبیاء آتے ہیں
prophètes de Dieu sont envoyés au monde, on s'oppose tout le temps à eux et à leurs suivants. On se moque d'eux. Voilà ce qui a été décrit dans le verset du Saint-Coran que je viens de réciter. La traduction de ce verset est comme suit. C'est ainsi que pour chaque prophète, nous avons fait un ennemi parmi les pécheurs, et ton Seigneur suffit comme guide et comme aide. Allah déclare qu'on s'est tout le temps opposé à tout prophète. Et ceux qui s'opposent aux prophètes ne se rapprochent pas de Dieu. Ils sont, par contre, parmi les pécheurs. Et lorsqu'on fait souffrir les bien-aimés de Dieu au nom de Dieu, les crimes des coupables augmentent davantage. Quand on a persécuté le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a dit la même chose, à savoir que c'est ainsi qu'agissent les coupables. Les ennemis de la foi font tout pour nuire au prophète. Ils essayent de faire obstacle à sa voie. Et ils essayent de faire souffrir ses suivants. Mais ces persécutions, ces vexations, ces tueries n'ouvrent pas pour les coupables les voies du succès. En fin de compte, ce sont les prophètes qui remportent la victoire. Et ses ennemis sont la cible de la colère de Dieu. Cette sourate dont je viens de réciter le verset a été révélée à la Mecque et les ennemis de l'islam ont commis des exactions des plus abominables à l'encontre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses suivants. Face à ces persécutions qu'il subissait lui et ses suivants, il faisait preuve de patience et encourageait ses suivants à faire preuve de patience. L'histoire a consigné plusieurs de ces incidents atroces. Il y a un incident qui concerne Ammar, son père Yasir, et sa mère Samia. C'étaient les membres d'une famille qu'on avait persécutée abominablement. Une fois, le saint prophète Mohammed est passé à côté d'eux lorsqu'on les torturait. Et d'une voix emplie d'émotion et de tristesse, le saint prophète Mohammed lui a déclaré « Sabran ala Yasir, fa inna mawaidukum al-jannah ». Faites preuve de patience aux membres de la famille de Yasir. Certainement, le paradis sera le fruit de votre patience. Yasir décéda quelques instants après, suite de ses blessures. Et Samia, qui était vieille, et qui était encore en vie, fut frappé d'un coup de lance dans le bas-ventre par Abu Jahl. Et elle est décédée des suites de ses blessures. Voilà les persécutions qu'on a fait subir aux suivants du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a agi ainsi afin que personne ne s'approche du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ces persécutions ont attiré l'attention des gens de bonne nature. En voyant ces cœurs emplis de foi, les gens se sont tournés davantage vers le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le message de l'islam est sorti hors de la Mecque et a atteint à la ville de Médine. Et l'islam s'est répandu là-bas. Et le message de l'islam est arrivé jusqu'en Abyssinie. Lorsque les chefs de la Mecque et leurs compères ont poussé à leur extrême la barbarie et la cruauté, au lieu de mettre un frein à l'expansion de l'islam, cette cruauté et cette barbarie n'a fait qu'aider à sa transmission. Allah déclare que l'on ne doit point craindre cette persécution, car cet antagonisme sera un moyen pour guider nombre de gens. Allah accorde son soutien, il est Al-Nasir et il est Al-Hadi, il guide, et certainement il va vous venir en aide. Et en dépit de cet antagonisme, c'est l'envoyé de Dieu qui aura la victoire en fin de compte. Et Allah montre des signes célestes et terrestres en faveur de ses prophètes. Il montre ces signes lorsqu'il désire montrer ces signes. Et il montre la manifestation de sa colère afin d'attraper les coupables. Et aucun roi puissant, aucun pharaon, aucun chef ne pourra arrêter la mission d'un prophète. L'opposition et l'antagonisme ouvrent les voies vers le progrès. Le Messie promis alayhi salam a donné l'analogie du fumier ou de l'engrais qui est utile aux champs cultivés. Il déclare que cette opposition contre les jama divines a le même effet que l'engrais. Grâce à cette opposition, nombre de personnes sont guidées dans la bonne direction. Ce sont les coupables qui se posent tout le temps aux bien-aimés de Dieu. Et lorsque le Messie promis devait venir, la même sunna de Dieu devait certainement entrer en application, et il en fut ainsi. On s'est donc opposé au Messie promis à l'islam, on s'est moqué de lui, et de temps en temps on fait souffrir ses suivants. Et en suivant des soi-disant oulémas musulmans, les musulmans pensent que faire souffrir les Ahmadis est un moyen pour servir l'islam. Dans le verset précédent, celui que j'ai cité dans la sourate Al-Furqan, il est dit « وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا » Et le messager dira « Ô mon Seigneur, en vérité, mon peuple a traité ce Coran comme une chose abandonnée. » Ce verset concerne d'une part les mécréants de la Mecque qui ont rejeté le Saint-Coran, et cela concerne aussi le Messie promis qui devait présenter au monde les enseignements véritables du Saint-Coran. Le Messie promis qui devait inviter les hommes à mettre en pratique les enseignements du Saint-Coran. Il y a là aussi une indication que la majorité des musulmans vont oublier les enseignements de l'islam quand l'imam de l'époque va les inviter en leur disant « Venez, je vais vous expliquer les secrets du Saint-Coran afin que vous puissiez mettre en pratique cet enseignement sublime et afin que vous puissiez transmettre au monde le message de l'islam. » Lorsqu'il va lancer cet appel, on va s'opposer à lui. Et dans le verset que j'ai cité, on est en train de consoler le Messie promis et sa jamaat, à savoir qu'on va vous persécuter parce qu'on n'a pas compris le Saint-Coran et ses enseignements véritables. Mais vous ne devez pas vous faire des soucis. C'est ainsi qu'on a toujours traité les prophètes et Allah et Al-Hadi. Il va certainement guider beaucoup de personnes. Il est votre aide et votre soutien. Quant aux coupables, quant à ces soi-disant érudits, quant à ces leaders, ces personnes qui incitent les masses à commettre ces exactions, eh bien, ces personnes n'auront point de succès dans leurs efforts. Et certainement, c'est la jamaat du Messie promis qui aura le succès. Ils peuvent persécuter les Ahmadis autant qu'ils le veulent. Ils peuvent remuer ciel et terre. Ils n'auront jamais de succès dans leurs efforts. Et un jour, tout cet antagonisme va se retourner contre eux. Je m'adresse à ces persécuteurs, à ces détracteurs de l'Ahmadiyya. Je leur dis que s'ils craignent Dieu, qu'ils craignent alors ce coup près de Dieu qui frappe silencieusement et qu'ils demandent protection contre son châtiment, car Dieu a un très grand sens de l'honneur à l'égard de ses bien-aimés. Les opposants de l'Ahmadiyya doivent profiter de ce moment de répit. Au lieu de nuire à leur vie ici-bas et dans l'au-delà, en suivant ces soi-disant érudits, qu'ils écoutent celui qui les invite, celui qui s'exprime en ces paroles avec grande tristesse, qui déclare, par sympathie, suite à l'ordre divin, je vous invite vers cette voie. Par l'ordre de Dieu, je vous invite vers cette voie, mais vous me qualifiez de menteur et d'antéchrist. Un peuple qui agit ainsi mérite pitié. Le Messie promis déclare, si Dieu n'était pas Rahman, s'il n'était pas gracieux, il aurait été impossible d'être à l'abri de son châtiment. Aujourd'hui, en suivant les voies du Messie promis, le Messie promis, qui lui-même a suivi l'exemple du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous nous adressons à ces détracteurs qui pensent que c'est un acte louable que de nuire aux Ahmadis. Nous nous adressons à eux et nous leur disons, nous avons de la sympathie pour vous et votre situation pitoyable nous rend anxieux. Nous avons peur que vous allez vous attirer la colère de Dieu et qu'il ne vous soit plus possible de faire marche arrière. Avant d'atteindre ce point de non-retour, cessez de vous opposer à l'envoyé de Dieu et au choisi de Dieu et de se moquer de lui. Cessez de prendre pour cible les membres de sa communauté et cessez de les faire souffrir. Le Messie promis alayhi salam déclare « Ô vous qui dormez, réveillez-vous !» Il s'adresse à ces personnes et leur dit « Ô vous qui dormez, réveillez-vous ! Ô négligents, levez-vous ! Le moment d'une grande révolution est arrivé. Ce n'est pas le moment de dormir, mais c'est le moment de pleurer. C'est le moment de faire preuve d'humilité et ce n'est pas le moment de ridiculiser les autres. Priez pour qu'Allah vous accorde les yeux pour constater dans toute sa plénitude l'obscurité qui règne aujourd'hui et afin que vous puissiez aussi voir cette lumière que Dieu a envoyée pour dissiper cette obscurité. Levez-vous dans la dernière partie de la nuit et implorez Dieu pour qu'il vous guide et cessez de prier pour la destruction de ce mouvement divin et cessez de faire de tels plans. Dieu ne va pas suivre vos plans. Il va vous dévoiler vos sottises et il va soutenir son serviteur et il ne va pas couper l'arbre qu'il a planté de sa main. Qu'Allah fasse que nos détracteurs puissent comprendre cela et abandonner leur antagonisme contre l'imam de l'époque et qu'ils puissent comprendre ce message empli de chagrin. Parmi les lois infâmes qu'on a passées contre les Ahmadis au Pakistan, il y a celle que les Ahmadis ne peuvent réciter la kalima La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qu'ils ne peuvent écrire ces paroles quelque part, qu'ils ne peuvent exposer cela quelque part. Et de temps en temps, les préposés de l'État utilisent cette loi pour tourmenter les Ahmadis. Ils font usage de cette loi pour plaire aux mollahs. Il y a un incident qui s'est passé dans un village nommé Chakbangla de la région de Sargodha. Des policiers sont entrés dans une mosquée Ahmadi et ont demandé à un enfant qui était là-bas d'enlever le tableau sur lequel on avait écrit la kalima. Et ils ont pris ce tableau. Pendant la nuit, les membres de la Jamaat ont réécrit la kalima dans cette mosquée. Cet enfant, un enfant Ahmadi, était petit et ils l'ont peut-être effrayé. Je n'ai pas les détails à ce propos et comment il a enlevé ce tableau. Mais en tout cas, il n'aurait pas dû le faire. Je conseille à tout enfant Ahmadi, là où il se trouve, que si à l'avenir il fait face à une telle situation, il doit dire aux policiers d'enlever eux-mêmes cette kalima. Moi, je ne vais jamais accomplir cette action. Vous pouvez me faire souffrir autant que vous le voulez, je ne vais pas enlever la kalima. Tout Ahmadi, homme, femme, enfant, jeune ou vieux, doit protéger la kalima. Si les préposés de l'État veulent mettre en application la loi et veulent enlever la kalima, qu'ils l'enlèvent. Nous ne craignons pas la loi, mais aucun Ahmadi ne doit les aider en ce sens. En aucune situation, nous devons les aider en ce sens, afin qu'au jour de la résurrection, la kalima puisse témoigner en leur faveur, afin que la kalima puisse les accuser. Selon la loi au Pakistan, il est dit que puisque les Ahmadis ne sont pas des musulmans, selon leur définition, c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas le droit de lire la kalima ou de la réciter. Nous leur disons que nous n'avons pas besoin de votre définition. Allah et son prophète ont déclaré que celui qui récite la kalima est un musulman. Dans un hadith, le saint prophète a déclaré que le meilleur dhikr, la parole qui fait d'une personne une croyante, est de prononcer la ilaha illallah. Personne ne pourra enlever notre foi et notre islam. Allah déclare dans le Saint-Coran « Liman alqa ilaykum as-salama lasta mu'mina » Ne dis pas à celui qui te salue avec la salutation de paix que tu n'es pas croyant. Et par la grâce de Dieu, les Ahmadis ont une foi parfaite en Dieu, en son livre et en son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Ahmadis ont foi en tous les piliers de la foi et de l'islam. Non seulement qu'ils sont musulmans, mais ils sont les croyants véritables. Ils sont les croyants véritables parce que ce sont les Ahmadis qui ont accepté l'imam de l'époque suite aux prophéties du saint prophète Mohammed lui, et ce sont lui qui lui ont transmis ses salutations et qui sont entrés dans sa jamaat. Cet incident ne s'est pas passé dans un seul village. Quelques jours après, ou le lendemain, cela s'est passé dans un autre village, dans les environs. Les policiers sont venus, mais le président de la Jamaat a fermé la porte de la mosquée et il a dit que si les policiers veulent venir, qu'ils viennent en uniforme. Le président de la Jamaat était un vieux et il était aussi cardiaque. Il a déclaré que si quelqu'un d'autre veut venir, il va devoir passer sur mon cadavre. Cette personne s'appelle Malik Atta Mohamed. Et tout au long de cet incident, il récitait la kalima. Et les policiers sont partis sans pouvoir effacer la kalima. L'amir de la région a déclaré que le président était cardiaque et sa maladie s'est aggravée. Et à la maison, il continuait à réciter la kalima, mais il a eu une crise cardiaque et en est décédé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'Allah exalte son statut. Hier, j'ai dirigé sa prière funéraire. Ces temps-ci, au Pakistan, la persécution contre les Ahmadis est à son fait. Les Ahmadis de l'extérieur doivent prier pour les Ahmadis du Pakistan. Et je rappelle aux Ahmadis qui sont au Pakistan que le salut de ce pays réside dans leurs prières. C'est pour cette raison que vous devez prier beaucoup. Les soi-disant oulémas ont détourné l'esprit des masses avec leur fatwa de kufr. et ces masses ne sont plus aptes à réfléchir et ils ne font plus la différence entre la vérité et le mensonge. Il y a certains qui sont coupables et qui ont été mentionnés dans le Saint-Coran. Ces personnes sont les bras droits de ces ulémas et on ne peut rien attendre de bien de ces personnes. Mais il y a d'autres qui, par ignorance, écoutent tout ce que disent les mollahs et croient en leurs paroles. Ces personnes n'ont point de connaissance, qu'Allah leur accorde l'intelligence et la compréhension. Et il y a aussi un nombre important de personnes qui sont de bonne nature et qui avertissent les gens concernant les actions des mollahs. Ces personnes de bonne nature doivent lever leur voix pour sauver le pays et doivent mettre de côté leurs courdises. Le mollah, quant à lui, va tout faire pour protéger sa chair duquel il harangue le peuple pour en faire des sceaux. Et telle est la situation des leaders du pays. La situation économique au Pakistan est des plus déplorables. On voit cela quotidiennement à la télé et dans les journaux. Mais personne ne se soucie de personne. Les actes de terrorisme sont à leur fête. Personne ne s'en soucie. Quotidiennement, des dizaines de personnes meurent. Il y a des calamités qui leur tombent du ciel et personne ne veut méditer à ce sujet. Depuis quelque temps, dans la région de Hunza, un lac est en train de semer la terreur. Le niveau de l'eau est en train d'augmenter dans le lac et un grand lac a recouvert plusieurs autres lacs. Et toutes leurs estimations concernant la montée des eaux sont complètement fausses. Ils ne savent pas d'où va venir l'eau et plusieurs villages ont été submergés par les eaux. Et l'eau est en train d'atteindre aussi les sommets des collines et des montagnes. On dit que la route pour Karakoram a été submergée et on n'arrive plus à venir en aide aux sinistrés grâce aux bateaux. L'eau est en train de monter rapidement et ils disent qu'il est maintenant difficile de venir en aide aux sinistrés grâce aux hélicoptères. Pourquoi voit-on tout cela? Et le niveau de l'eau est si important que les canaux de drainage ne pourront pas tenir le coup. Et si cette eau coule, l'eau va recouvrir les régions en aval et ils ne savent pas quelle sera l'ampleur de la destruction. En dépit de cela, ils ne comprennent rien. En dépit de cela, ils n'ont pas de souci à ce sujet. Leur seul souci, c'est d'insulter les Ahmadis. Leur seul souci, c'est d'enlever la kalima des mosquées Ahmadis, de tuer les Ahmadis. Le meurtre d'un Ahmadi signifie le martyr pour celui-ci, car il a été tué uniquement pour la cause de Dieu et de son prophète. Ils sont tués pour avoir récité la parole « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ». Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit à son compagnon « As-tu ouvert le cœur de la personne qui récitait la kalima pour voir s'il l'a récité sincèrement ou superficiellement ?» Ses compagnons ne savaient pas si cette personne avait récité la kalima superficiellement ou sincèrement. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, lui-même ne savait pas si cette personne avait récité la kalima sincèrement ou superficiellement. Mais quant aux mollahs, eux, ils connaissent l'état des cœurs. Ils savent si on est en train de réciter la kalima sincèrement ou pas. Quelques jours auparavant, un autre Ahmadi est tombé à martyr à Karachi. Il s'appelle Hafiz Ahmad Shakir. Vers minuit et demi, il fermait son magasin et il retournait chez lui. Il avait une pharmacie. Il avait 48 ans et en cours de route, ses assaillants l'ont arrêté et lui ont tiré une balle à la tête. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En tant que khadim et plus tard en tant que nasir, il était très actif et il aimait à réciter le Saint-Coran et il avait une bonne position lors des compétitions de la récitation du Saint-Coran. C'était une personne pieuse. Elle était fidèle envers l'Ahmadiyya. Monsieur Ahmad Shakir a laissé sa femme, sa mère, deux filles, Quratun Layn, qui a 19 ans, et Touba, qui a 14 ans, et un fils de 17 ans. Qu'Allah accorde la patience à sa mère, à ses enfants et à sa femme, et qu'il exalte son statut. Tous ces crimes, toutes ces exactions sont commis en raison des incitations des mollahs. J'ai déjà défini qui est un musulman et qui est un croyant selon Dieu et selon son prophète. Mais que dit le Saint-Coran à propos de ceux qui tuent les croyants? Allah déclare « وَمَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا » فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Et quiconque tue un croyant à dessein recevra l'enfer comme récompense où il demeurera longtemps. Allah sera courroucé contre lui, le maudira et préparera à son intention un très grand châtiment. Dans leur antagonisme mutuel, ils sont en train de s'entretuer. Ils sont en train de tuer même ceux qu'ils qualifient de musulmans. Quotidiennement, on voit ces tueries au Pakistan. Les ulémas doivent réfléchir à ce sujet. Celui qui incite au crime ou celui qui planifie ce crime est tout aussi coupable que celui qui commet ce crime. En tout cas, nous avons confié cela à Dieu. Nous avons tout le temps fait preuve de patience et nous allons faire preuve de patience à l'avenir. Allah déclare à propos des martyrs, « Wala tarsaban alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. » Ne pense pas que ceux qui ont péri pour la cause de Dieu sont morts. Non, ils sont vivants et en la présence de leur Seigneur reçoivent leur présent. Allah a promis aux martyrs des grâces permanentes dans l'au-delà et ils vont vivre dans l'au-delà pour l'éternité. Mais à propos de ces personnes qui tuent les croyants, il est dit « وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ » Vous faites du rejet de la vérité votre moyen de subsistance, votre gagne-pain. Le gagne-pain de ces mollahs, le gagne-pain de ces politiciens est de rejeter le Messie promis à l'islam. Voilà donc leur seul moyen de subsistance. Rejeter le Messie promis est leur moyen de subsistance et ils ont oublié le pourvoyeur véritable. Dieu a évoqué ceux qui rejettent la vérité dans le verset que j'ai cité au tout début. Ces personnes doivent se réveiller, c'est là une situation des plus dangereuses. Et suivant le progrès de la Jamaat, l'opposition contre la communauté est en train de grandir. Et cela est en accord à la parole de Dieu que tout prophète fera face à de l'opposition. On devait donc traiter ainsi le Messie promis et ses suivants. Cela va se faire partout où il y a des Ahmadis. Dans certains endroits, il y aura plus, dans d'autres, moins d'opposition. Mais comme je l'ai évoqué lors de mon précédent sermon, aujourd'hui, en Égypte, la persécution contre les Ahmadis s'est amplifiée. Et maintenant, certains départements de l'État sont en train de suivre les mollahs dans cette direction. Certains Ahmadis ont été emprisonnés et parmi les accusations lancées contre eux, il est dit que, na'udhoubillah, les Ahmadis acceptent Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian comme le sceau des prophètes, le Khatamun Nabiyyin. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Selon nous, c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a le statut le plus exalté et après lui, il n'y aura pas de prophète porteur de loi. Et après le Saint-Coran, il n'y aura pas d'autres livres de loi. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de déclarer qu'il a tout reçu par l'entremise du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il a déclaré que Dieu m'a envoyé parce que, d'entre tous, je suis celui qui ressent le plus grand amour pour le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Je m'adresse à ces intellectuels et je leur dis de ne pas écouter tous les oui-dire comme des gens ignorants. Essayez de comprendre le message de l'Ahmadiyya et étudiez les déclarations du Messie promis à l'Islam. Si ces accusations sont fondées, alors faites-nous savoir. Écoutez tout d'abord notre point de vue, mais ils ne sont pas prêts d'écouter le point de vue des Ahmadis. Ils veulent prendre des décisions unilatérales. On doit craindre Dieu et la colère de Dieu et le châtiment de Dieu. Voyez un peu les services qui ont été rendus par le Messie premier l'Islam à l'Islam. Voyez un peu le sens de l'honneur des Ahmadis concernant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, aux yeux d'Allah, vous serez les véritables coupables et non pas nous. Seront coupables ceux qui rendent des jugements sans étudier la question. Le Messie promis alayhi sallam a décrit la situation de ces mollahs dans un de ses écrits. Et depuis l'époque du Messie premier l'Islam jusqu'à présent, il n'y a pas eu de différence dans la nature de ces soi-disant oulémas. Il n'y a pas eu de différence non plus dans leurs actions. Le Messie premier l'Islam déclare, quand nous regardons de près ceux qui se disent être les érudits de l'Islam, et les érudits de la foi du prophète, nous constatons qu'ils sont des fiefiés paresseux. Ils ne peuvent venir en aide à la vérité ni par leurs plumes ni par leurs paroles, à l'exception de ces serviteurs choisis de Dieu qui sont peu en nombre. Et la plupart d'entre eux nourrissent animosité à l'égard de ceux qui sont dans la vérité. À chaque fois qu'ils entendent une parole de vérité, ils s'enflamment. Ils ne connaissent point la vérité et la rectitude. Ils ne cessent de semer le trouble et ils mêlent la vérité au mensonge afin que par leur critique, ils arrivent à égarer les ignorants. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ils disent que les Ahmadis considèrent Hadrat Mirza Ghulam Ahmad comme le Khatam al-Nabiyyin, na'udhoubillah. C'est là un mensonge et une accusation vile. Et c'est ainsi qu'ils égarent les innocents. Le Messie promis déclare, il dit, et il considère comme menteur celui que Dieu a envoyé pour réformer les hommes, et il qualifie les croyants de mécréants. Il ne cesse de mentir et de qualifier les autres de mécréants et ne savent pas c'est quoi rendre service à la foi. Et il mêle la vérité au mensonge et nous accuse sciemment. C'est là une grande calamité qui a frappé la religion du Saint-Prophète, car la majorité des oulémas ont abandonné toute forme d'honnêteté et de rectitude. Ils sont en train de se comporter comme les ennemis de la foi. Ils sont en train de protéger le mensonge contre les assauts de la vérité. Ils essayent de protéger le mensonge de la vérité. Le Messie promis déclare, ils ne se soucient guère de Dieu le Tout-Puissant. Ils sont emplis d'animosité et viennent en aide aux mécréants, et ils croient en leur fort intérieur qu'ils sont en train de suivre la vérité, alors qu'en fait, ils sont en train de marcher sur la voie qui mène à leur destruction. Ils ne connaissent que leur vil désir et n'essayent pas de comprendre ni à méditer. Après avoir entendu la vérité, ils s'entêtent à suivre la voie de la rébellion, comme si on les invite vers la mort. Ils se sont complètement amourachés de ce bas monde, et à la maison, ils font quelque chose, et à l'extérieur, ils font quelque chose d'autre. Malheur à ceux qui agissent par ostentation. Le Messie premier Islam a cité l'exemple d'un mollah qui a fait un grand discours concernant les sacrifices financiers pour l'islam. Et même sa femme en était émue et elle fut grandement impressionnée. Arrivée à la maison, elle a fait sortir ses bijoux en guise de sacrifice et a présenté cela à son mari qui était tout étonné. Elle a déclaré à son mari que j'étais impressionné par ce que vous avez dit et j'en étais ému et je vous offre cela en sacrifice. Le Mollah a répondu, ce discours n'était pas pour toi mais pour les autres. Le Messie premier l'Islam continue et déclare que malheur à ceux qui agissent par ostentation. Ils voient à quel point les mécréants sont en train de semer le trouble et ils voient que la foi véritable est la cible des scélérats. Et ils voient que les méchants sont en train de fouler sous leurs pieds la vérité. Aujourd'hui, nous voyons cette effronterie partout, en Occident, en Europe, dans les journaux, sur les sites web. On est en train de déshonorer le Saint-Prophète. Au Pakistan, par exemple, on a bloqué l'accès à Facebook en raison des choses qu'on allait publier contre le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. Toutes ces personnes agissent ainsi contre l'islam, car ils savent que les musulmans ne sont pas unis et qu'ils peuvent agir selon leur bon vouloir et ils ne pourront jamais rien faire. Et ces gens ne veulent pas aider l'imam de l'époque qui est venu défendre l'islam. Le Messie promis à l'islam déclare donc que ces gens voient très bien comment la foi est la cible des méchants et comment ils sont en train de fouler sous leurs pieds la vérité. En dépit de cela, ils dorment à poing fermé et n'ont aucune sympathie à l'égard de la foi. Ils entendent ces paroles meurtrissantes prononcées par les impurs, mais cela ne les émeuve pas et n'agissent point comme des hommes ayant un sens de l'honneur, mais sont comme des femmes enceintes qui sont alourdies par leur poids. Ils marchent à pas lourds vers la vertu, ils sont dénués de toute envie de faire des efforts. Et lorsqu'ils voient quelque chose qui attise leur plaisir charnel, ils y accourent, ils volent même. Voilà l'état de nos chers oulémas. Alors que les incroyants sont en train de remuer les terres afin d'effacer l'islam de la surface de la terre, tous leurs efforts sont dans ce sens et ils ne cessent d'agir ainsi. Voilà donc le chagrin du Messie premier al-Islam. Voilà comment il a décrit ces soi-disant érudits de l'islam. Voilà comment il a décrit cette situation désolée. Le Messie premier al-Islam ne s'est pas contenté de critiquer les ulémas, mais comme nous le savons, il a écrit plus de 80 ouvrages pour défendre l'islam. Il a essayé de guider les ulémas vers la vérité et il a prouvé la suprématie de l'islam sur toute autre religion. Et il a fait comprendre aussi l'honneur et la suprématie de l'islam. Il a fait comprendre à ses suivants le statut véritable du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et il a donné sa vie pour établir l'unicité de Dieu. Et il a laissé derrière lui une communauté qui a perpétué sa mission. Toute personne imbue de justice accepte ce qu'il a accompli. Après sa mort, les non-Ahmadis ont témoigné de cela et je vais citer l'exemple de Maulana Abdul Kalam Azad, un leader musulman, un non-Ahmadi qui a écrit ces paroles après la mort du Messie promis. Il déclare « L'éminence même de Mirza Saheb a fait ressentir aux intellectuels musulmans et les musulmans cultivés qu'ils ont perdu un grand personnage » et cela en dépit du fait qu'il y avait un désaccord flagrant entre ces musulmans et lui concernant ses déclarations et ses croyances. Ce grand défenseur de l'islam a protégé cette foi de ses détracteurs. Cette personne les a quittés. Nous sommes contraints de reconnaître qu'il a défendu l'islam comme un général héroïque face aux assauts de ses ennemis, et cela afin que ce mouvement glorieux puisse se perpétuer à l'avenir pour réduire à néant les efforts de nos ennemis. Voilà son point de vue. Il ne savait pas que sa communauté a été bâtie par Dieu et que le trésor qu'il nous a laissé est en train de clouer le bec des ennemis de l'islam. Le Maulana Abdul Kalam Azad écrit que les écrits de Mirza Saheb concernant la religion des chrétiens et des hindous ont été acclamés par tout le monde et il n'est point nécessaire ici d'en faire mention. Nous reconnaissons la grandeur de ces écrits car ils ont aujourd'hui prouvé leur justesse et ont atteint leur but. Nous n'avons effacé cela de nos cœurs car ce fut un moment où l'islam était au centre de l'assaut lancé par l'ennemi et que les musulmans, qui étaient censés de le défendre, ne faisaient rien ou ne pouvaient rien faire en raison de leur turpitude. Les musulmans avaient pour tâche de protéger l'islam, mais ils ne pouvaient rien faire en raison de leurs mauvaises actions. C'est le Messie premier al-Islam qui a défendu l'islam. La situation était telle que d'une part, tout le monde chrétien avait fait de l'islam la cible de leurs assauts et essayé de le faire disparaître de la surface de la terre. Et pour atteindre ce but, ils usaient de tous leurs moyens intellectuels et de toutes leurs richesses. Le monde chrétien qui était là essayait de faire disparaître la lumière de l'islam et considérait l'islam comme un obstacle sur sa voie. Et ils ont utilisé leurs moyens intellectuels et leurs richesses pour atteindre ce but. Les chrétiens possédaient la connaissance et les richesses, mais d'autre part, les musulmans étaient si faibles que face aux boulets de canon, ils n'avaient même pas des flèches pour se défendre. Les autres avaient apporté des boulets de canon, c'est-à-dire ils avaient apporté leurs preuves, leurs arguments, leurs livres, mais les musulmans ne possédaient même pas de flèches pour se défendre. Ils ne pouvaient pas ni se défendre ni attaquer. Il déclare que Mirza Saheb a eu l'occasion de répondre en partie à ces attaques en premier. Fin de citation. Mais en fait, ce fut le Messie promis seul qui a défendu l'islam. Ce ne sont pas uniquement des musulmans justes qui ont loué le Messie premier, l'islam, mais même les non-musulmans ont accepté cela. Il était un très grand général qui a défendu l'islam et ses enseignements ont arrêté le progrès du christianisme et les chrétiens ont été contraints d'accepter que c'est la Jamaat Ahmadiyya qui a arrêté le progrès du christianisme en Inde comme en Afrique. Je vais citer deux exemples à ce sujet. Un prêtre et missionnaire américain, M. Weavergard, écrit que la Jamaat Ahmadiyya est venue en aide à l'islam en Sierra Leone, dans la région de Rukupur. Et la Jamaat Ahmadiyya s'est retranchée derrière ses fortifications. Et maintenant, c'est l'islam qui remporte la victoire face au christianisme. Face à cette confrontation, après quelque temps, on a dû fermer la mission chrétienne dans la ville Kamia. Un autre écrivain chrétien, S.D. Williamson, qui a écrit un livre, Christ et Mohammed, déclare que dans la région nord du Ghana, à l'exception de l'Église catholique, toutes les autres dénominations chrétiennes ont abandonné le champ de bataille face aux suivants de Mohammed. Le christianisme est en train de progresser dans la région Ashanti et dans la région de la Côte d'Or, mais la Jamaat Ahmadiyya est en train de remporter des grandes victoires dans la région sud et sur la côte. L'espoir qu'on avait que le christianisme allait remporter la victoire de la région du Gold Coast est maintenant sérieusement mis à mal et nous pensons que ce danger dépasse de loin nos appréhensions car un nombre important de jeunes intellectuels sont attirés par la Jamaat Ahmadiyya. Cette situation est un défi pour le christianisme. Néanmoins, la décision reste à prendre si c'est le croissant ou la croix qui va régner en Afrique. Fin de citation. Inch'Allah, c'est le croissant qui va régner. Le Messie promis à l'islam déclare à propos de sa situation intérieure. Il déclare « Le confort de ma vie réside dans mon dévouement à cette cause. Je ne peux vivre sans étaler au grand jour la gloire des paroles de Dieu et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je ne me soucie guère si les autres me qualifient d'incroyant. Mon seul objectif est de plaire à celui qui m'a envoyé. Mon plaisir réside dans le fait de transmettre aux autres tout ce qu'il m'a dévoilé. Il m'incombe d'accorder aux autres ce qu'il m'a accordé. Il m'incombe aussi d'inviter les autres vers Dieu. Et pour atteindre cet objectif, je suis prêt à tout faire. Je me dévoue corps et âme à cette cause. J'ai l'espoir que mes prières ne seront pas vaines et qu'elles seront agréées par lui et j'espère aussi qu'il va exaucer tous mes vœux. » Fin de citation. Peut-on dire à propos d'une telle personne qu'elle se considérait comme le sceau des prophètes na'oudhou billah min dhalik? Peut-on dire que son statut est plus élevé que celui du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam? Nous sommes de ceux qui comprennent le sens véritable des paroles « La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ». Nous sommes de ceux qui comprennent le sens véritable du statut du saint prophète Muhammad B. soit lui. De temps en temps, on lance ces accusations contre les Ahmadis et on exacerbe les passions contre nous ces soi-disant érudits attisent les passions contre nous. Les musulmans doivent faire de leur mieux pour différencier la vérité du mensonge. Et quant aux Ahmadis, ils peuvent sacrifier leur vie, mais jamais, après avoir compris le sens véritable des paroles « La ilaha illallah », il ne pourra s'en détourner. Au nom de la kalima, on est en train d'effacer la kalima. Au nom de la kalima, on est en train d'emprisonner les Ahmadis. Au nom de la kalima, on est en train de tuer les Ahmadis. Mais ces mêmes paroles vont témoigner en notre faveur face à Dieu. Et ces mêmes paroles vont témoigner contre ceux qui persécutent les Ahmadis. Ces mêmes paroles vont témoigner contre ceux qui assassinent les Ahmadis. Nous sommes contents, car Allah est en train de nous donner la bonne nouvelle du paradis et il est en train de nous accorder la vie éternelle. D'une part, les martyrs auront la bonne nouvelle d'une vie éternelle. D'autre part, tous ceux qui font preuve de constance vont attirer l'amour de Dieu. Certainement, ceux qui font preuve de constance et de patience vont attirer l'amour de Dieu. Ne laissez pas mourir ces sentiments. Qu'Allah nous en donne la possibilité. Je vais diriger la prière funéraire de cette personne qui est tombée à mortir et je vais diriger la prière funéraire de M. Malik Atta Saheb. Il y a aussi la prière funéraire d'un de nos frères Ahmadi de l'Égypte, Ahmad Mohamed Hatim Hilmi Shafi, qui est décédé le 20 mai. Suite à une insuffisance rénale, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, il avait entre 20 et 22 ans. Il était le fils aîné du docteur Mohamed Hatim Saheb et il était le petit-fils de Hilmi Shafi Saheb. Hilmi Shafi Saheb, comme nous le savons, qui participait dans les émissions L'Ikam al-Arab avec le quatrième calife. Ahmad Mohamed Hatim Hilmi était handicapé moteur. Il devait se déplacer sur un fauteuil roulant, mais il a fait preuve de patience face à sa maladie et consolait même ses parents et sa mère. Sa mère elle-même s'étonnait de sa patience. Et lorsque sa maladie s'est aggravée, lui-même consolait sa mère et ses proches. Et sa mère a déclaré qu'il était le plus obéissant parmi ses enfants. Son père, le docteur Hatim Shafi Saheb, est en prison. Il fait partie de ces Égyptiens qui ont été placés en prison. Il est le président de la Jamaat. Il était en prison, ou il est en prison quand son fils est décédé. Son fils avait fait des études en commerce et en informatique et il avait l'intention de suivre les pas de son grand-père et de travailler pour publier les ouvrages de la communauté. Il avait un grand amour pour le califat. Il était venu deux fois pour la Jalsa en ma présence. Sa mère déclare qu'il répétait les paroles Inna awwala baytin wudiya lin-nasi lalladhi bi Bakka et labbaik allahumma labbaik. En raison de son insuffisance rénale, il était sous dialyse depuis un certain temps. Son père est en prison et il n'a pas pu participer dans sa prière funéraire. qu'Allah exalte son statut et qu'Allah accorde la patience à sa mère et à ses proches. Qu'Allah protège tout Ahmadi de tout mal. Amin.